Amen. C'est un bonheur extrême de nous retrouver dans la présence du Tout-Puissant. Il n'y a rien de plus merveilleux. Nous étions en 2024 et il a dit, allons de l'autre côté. Et pendant que nous allons de l'autre côté, alors que nous sommes de l'autre côté, il peut subvenir beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Mais il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu vas perdre ton salut. Alors tiens bon. Ce matin, je voudrais remercier le Seigneur qui nous donne cette occasion de nous tenir devant son peuple pour donner du réconfort, pour donner des orientations à son peuple qui est là. Et je remercie aussi notre pasteur Joseph Bondo qui a bien voulu que je puisse me tenir ici pour apporter la parole au peuple de Dieu. Que le Seigneur bénisse le pasteur Bondo, maman Gisèle et toute sa famille. Que le Seigneur bénisse tous ses collaborateurs, tous ceux qui travaillent à ses côtés. Et que le Seigneur bénisse aussi chacun d'entre vous qui êtes là. Je vois aussi parmi nous ce matin un bien-aimé qui nous vient de Luanda en Angola, quelqu'un qui a évolué ici parmi nous. Permettez-moi de l'accueillir et que nous puissions tous l'accueillir. Il s'agit de notre bien-aimé, le pasteur Prosper Mavinga. Si vous pouvez vous tenir debout. Merci. Vous pouvez reprendre votre place. Donc, si vous allez à Luanda, sachez que la borne est là aussi. Et il est celui qui conduit le travail de Dieu dans cette ville et dans ce pays. Nous allons, avant de prier, nous allons prendre nos lectures de base ce matin. Et nous allons lire un passage que j'aime beaucoup, j'aime y revenir souvent. C'est dans Genèse au chapitre 37. Nous allons effectuer quelques lectures à travers quelques versets. Ensuite, nous prendrons Romains au chapitre 8. Genèse au chapitre 37. Nous allons lire à partir du deuxième verset. Et si vous y êtes, nous pouvons déjà lire. Je suis dans la version Louis Segond. Voici la postérité de Jacob. Jacob, c'est le fils d'Isaac et le petit-fils d'Abraham. Joseph, son fils, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos, donc les mauvais propos de ses frères. Nous poursuivons, il est dit, Israël aimait Joseph. Donc Jacob, c'est aussi celui que l'on appelle Israël. Il aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Faites attention, parents, lorsque nous sommes avec nos enfants. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Et au verset 5, il est dit, « Joseph eut un songe. » Et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Nous allons sauter et nous allons au verset 13. Le reste, vous pouvez continuer la lecture à la maison. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, mais voici. Israël lui dit, va, je te prie. Et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoyait ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Verset 18. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Leurs propres frères, s'il vous plaît. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes, qui arrive, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben, le fils aîné, il manifeste vraiment qu'il est l'aîné. Il entendit cela et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert. et ne mettaient pas la main sur lui. Il avait le dessein de les délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne, heureusement, était vide. Il n'y avait point d'eau. Nous allons dans Romains au chapitre 8 et nous lisons les versets 18, 28 et 31. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances des temps présents ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Verset 28. Nous savons du reste que toutes choses, c'est-à-dire les bonnes et les mauvaises, concourent ou travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci parce que tout gracieusement, tu as permis que nous puissions entrer dans cette nouvelle année 2025. Nous ne savons pas à quoi nous serons confrontés au cours de cette année. Mais ce que nous savons, c'est que ta parole nous donne de l'assurance qu'avec toi, nous nous précipitons sur des troupes en armes. Avec toi, Seigneur notre Dieu, nous franchissons des murailles. Nous savons, Seigneur notre Dieu, que ce que toi tu veux, c'est notre bien. C'est toi qui vas nous conduire, même si nous passons par des moments difficiles. Seigneur, nous te prions que ta bonne main soit sur chacun d'entre nous. Ce matin, je prie, Seigneur, que tu te serves de moi comme d'un simple instrument, car c'est ce que je suis, afin de communiquer ta parole à ton peuple qui est réuni en cet endroit. Seigneur notre Dieu, fais du bien à ton peuple qui est là. Il y en a qui sont venus ici, Seigneur, qui souffrent dans leur cœur. Il y en a qui ont pleuré la nuit. Il y en a, Seigneur notre Dieu, qui n'ont même pas trouvé de quoi satisfaire leur corps hier. Mais toi, Seigneur, tu les aimes, tu nous aimes tous. Seigneur, parle à chacun d'entre nous et fais du bien à chaque personne qui est là. Que personne ne soit en dehors de ta volonté. C'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Ce matin, bien-aimés, nous voudrions aborder un sujet que beaucoup parmi nous, nous n'aimons pas. Personne n'aime programmer cette chose-là. Et pourtant, c'est quelque chose qui est indispensable pour nous propulser à des niveaux plus élevés. Le dimanche passé, le pasteur y avait fait allusion. Il a dit, nous aurons des difficultés en 2025 et toute notre vie. Il y a des problèmes, il y a des situations auxquelles nous serons confrontés. Et le vendredi passé, pour ceux qui ont été là à la réunion d'intercession le soir, il nous a encore été dit de la bouche de David, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc il peut arriver que nous puissions passer par des moments difficiles. Même les enfants de Dieu, il nous arrive de passer par des moments sombres. Ça arrive, c'est le lot de l'existence humaine. Mais de prime abord, je voudrais vous dire, soyez apaisés. Soyez tranquilles. Il y a un Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Sachez que, quelle que soit la souffrance à laquelle nous pouvons être confrontés, Dieu est au contrôle de la situation. Il ne l'ignore pas. C'est nous qui sommes surpris quand nous nous retrouvons devant une difficulté. Mais le Seigneur savait déjà que cette chose allait nous arriver. Et donc, nous n'avons pas à craindre. Et nous savons que toutes ces choses qui arrivent dans notre vie, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, Dieu les fait travailler pour le bien de ceux qu'il aime. Alors ce matin, je voudrais savoir si tu aimes Dieu. Ça, c'est très important. Parce que pour quiconque aime Dieu, le regard favorable du Seigneur est sur lui. Et nous allons parler donc ce matin de ce thème, Dieu, les souffrances et nous. Après une introduction sur ce que c'est la souffrance, nous allons voir le cas de Joseph, puisque nous avons soulevé son cas dans la lecture que nous allons effectuer, que nous avons effectué dans Genèse au chapitre 37. Nous allons voir aussi quelques fonctions que la souffrance produit dans la vie des hommes. Et nous allons terminer par quelques bonnes attitudes que nous devons adopter lorsque nous passons par des moments difficiles, et après quoi nous allons conclure. Alors je souhaite à chacun d'entre vous un très bon appétit, et je voudrais dire que les souffrances figurent parmi les phénomènes que la nature humaine n'aime pas. En tout cas, je ne voudrais pas faire face à la souffrance. Personne ne souhaite passer par là. Cependant, il n'y a personne ici. Si nous commençons à demander à chaque personne, personne ne pourra dire que sa vie a été complètement sans difficulté, sans souffrance. La plupart de nous, nous avons eu à faire face à des souffrances, n'est-ce pas? Un jour ou l'autre, nous avons rencontré la difficulté, les problèmes, l'adversité dans notre vie, au moins une fois. En tout cas, à cet âge-là, nous en avons rencontré plusieurs. Ça peut être une maladie. Ça peut être un deuil qui nous frappe ou qui frappe notre famille. Ça peut être un problème lié au travail. L'année nouvelle a commencé, mais il y en a qui attendaient l'année passée. Seigneur, je voudrais que, avant d'entrer en 2025, que tu me donnes du travail. Mais voilà, il a commencé l'année, il n'a pas de travail. Comment subvenir aux besoins de la famille? Il y a un Dieu dans les cieux. Ça peut être un problème au niveau du foyer, au niveau de la famille. Ça peut être une injustice dont nous sommes victimes. Ça peut être quoi? Une prière qui tarde à être exaucée. Et parfois même, comme si cela n'était pas suffisant de passer par des moments difficiles, deux ou plusieurs problèmes peuvent subvenir à la fois. Mais si la souffrance ne vous a pas encore visité, bien-aimé, je voudrais vous dire qu'elle viendra. En tout cas, je dois vous dire la vérité. Vous pouvez même me dire, sans effet. Mais moi, je voudrais vous dire, avec effet, parce qu'il y a un Dieu dans les cieux. Il ne laissera pas cette souffrance vous écraser ou vous anéantir. Dieu nous aime. Voilà pourquoi, à travers cette prédication, je voudrais nous préparer, chacun d'entre nous, à affronter les souffrances, mais en compagnie de Dieu, pas seul. Seul, nous ne pourrons pas. Le pasteur nous a fait voir la fois passée, lorsque Élisée était confronté à ce complot qui avait été ourdi par le roi d'Assyrie, pardon, le roi de Syrie, c'était un état puissant à l'époque. Le roi avait envoyé des troupes pour encercler la ville où il se trouvait. Mais notre frère Élisée, il était conscient de ce problème qu'il y avait devant lui, mais il a dit à son serviteur, « Calme-toi. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Alors, quelle que soit la difficulté par laquelle vous êtes en train de passer, mon frère, ma sœur, je voudrais vous dire que ce n'est pas quelque chose d'étrange. La Bible parle de souffrance des temps présents. Et s'il y a des souffrances des temps présents, ça veut dire que dans cette existence, nous rencontrerons des problèmes. Pendant que nous sommes en vie, nous rencontrerons des problèmes. Même si nous menons une existence toute à la gloire de Dieu, sachez que les problèmes seront là. Ça peut être une épreuve, ça peut être une persécution que nous sommes en train de subir. Ça peut être une tribulation dans le corps, dans l'âme ou dans l'esprit. Mais l'histoire de Joseph que nous avons lue tout à l'heure, ça nous aide à comprendre que même les souffrances deviennent des instruments que Dieu va servir. Ce n'est pas toujours lui qui les suscite, mais en tout cas, chaque fois qu'il y a des souffrances devant vous, Dieu va s'en servir afin de nous perfectionner. Elles peuvent nous aider, comme je disais tout à l'heure, de passer d'un niveau donné à un niveau plus élevé. Alors écoutez un peu le récit de ce frère Joseph. Joseph était le 11e fils de son père Jacob. Jacob l'avait attendu depuis très longtemps. Mais voilà, pendant plusieurs années, il n'était pas encore là. Mais un jour, Joseph est né quand même. Joseph est venu à l'existence. Et ici, on nous relate quelque chose qui s'est passé alors que ce jeune homme avait 17 ans. Si c'était ici à Kinshasa ou dans notre monde aujourd'hui, il était sur le point de terminer l'école secondaire. Et c'est en ce moment-là que ce problème lui arrive. Joseph avait des songes. Et des songes au travers desquels le Seigneur lui révélait, lui faisait connaître ce qu'il allait vivre un jour. Et il en a parlé à ses frères et à son père. Ses frères l'ont haï à cause de cela. Son père même lui a fait des reproches à cause des songes qu'il avait. Mais ces choses, quels que soient les problèmes face auxquels il est passé, ont fini par s'accomplir parce que c'est le plan de Dieu, parce que c'est le dessein que l'Éternel avait établi pour lui. Toi aussi, il y a un projet que le Seigneur a formé sur toi. Dans Jérémie, il est dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Mais écoutez, il dit, « Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, même si vous voyez que ce sont des projets qui ne ressemblent pas à la paix, dites-vous toujours, « Les projets que le Seigneur a formés pour moi, ce sont des projets de paix et non de malheur. » En d'autres termes, la situation par laquelle je passe ne va pas m'anéantir. Le plan de Dieu dans ma vie va s'accomplir, bon gré, mal gré. Alors notre frère, il est envoyé par son père, va rendre visite à tes frères, apporte-leur du réconfort, va voir si le troupeau est en bon état. Et pendant qu'il avançait, lorsqu'il est arrivé non loin d'eux, ses frères l'ont vu, ils ont dit, voilà, l'homme des songes est là, tuons-le. Et nous allons voir ce que ces songes vont devenir. La souffrance par laquelle on voulait le faire passer, c'était la mort. Mais le Seigneur a fini par accomplir ce qu'il avait préparé pour lui. Joseph arrive auprès d'eux, ses propres frères, s'il vous plaît. Peut-être que vous aussi, vous êtes en train de subir des difficultés de la part de vos propres frères, de ceux-là que vous aimez, de la part de vos amis, de ceux que vous appelez les Mukonfia, Mutunangai, mon homme de main, la personne que j'aime. Ça peut arriver. Le cœur de l'homme est ainsi fait, malheureusement, à cause du péché. Mais ne soyons pas des pierres d'achoppement pour les autres, s'il vous plaît. Joseph arrive là, il est jeté dans la citerne, et puis ses frères s'en vont calmement, ils commencent à manger. Et lorsqu'ils voient une caravane de gens passer par là, vous savez, à l'époque, dans les régions désertiques, les gens vivaient parfois de la vente des esclaves. Et ses frères disent, voilà des caravanes qui passent là-bas, au lieu de laisser notre frère là-bas, il va mourir, vendons-le. Nous allons mettre quelque chose dans notre poche et lui, il ne va pas mourir. Alors, ils le vendent. Et là où il est allé, il est encore revendu. Et puis, il arrive dans cet endroit de l'Égypte. Il entre au service de l'un des serviteurs, de l'un des officiers du roi. Il commence à travailler et là encore une souffrance l'a suivi. Il est jeté en prison et il va rester en prison. 17 ans, le jour qu'il est parti de chez son père, et 30 ans, le jour où il va se retrouver devant le roi d'Égypte. 13 ans durant, des montées et des descentes. 13 ans. Des moments où il y avait des éclaircies, certes, dans sa vie, mais aussi des moments où il passait par des moments difficiles. Je pense qu'il se posait même des questions pendant qu'il était en prison. Est-ce que c'est ici? Je suis capitaine, je suis le chef des prisonniers qui sont ici. Est-ce ça le songe que j'avais eu? Non, Joseph. Dieu a son plan, il finira par l'accomplir. Il l'amènera à l'accomplissement. Notre frère est passé par de sombres tunnels. Mais lorsque le temps était accompli, le Seigneur a réalisé, le Seigneur a fait ce qu'il avait prévu. Et je voudrais vous dire que la chose la plus importante, c'est que Joseph a travaillé, a été un instrument pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Ce n'était pas un fait du hasard. Ce n'est pas le simple plaisir de voir Joseph être propulsé au sommet de la nation, puisque il était devenu la deuxième personnalité du pays. Non, ça ce n'est que secondaire. La chose la plus importante, c'est que dans ces songes-là, le Seigneur faisait voir ce qu'il voulait. Rappelons-nous que quelques dizaines d'années auparavant, Dieu avait parlé à son grand-père Abraham. Ta descendante sera esclave en Égypte. Et ensuite, je le ferai sortir de là. Et l'instrument que Dieu va utiliser pour que ces gens qui étaient jusque-là dans le territoire des Canaan puissent arriver en Égypte, c'est Joseph. Puisses-tu servir, puissais-je servir à l'accomplissement des plans de Dieu dans ma vie, même si pour cela nous devons passer par des moments difficiles. Qu'importe, pourvu que le plan de Dieu s'accomplisse. Et lorsque le plan de Dieu va s'accomplir, sachez qu'il ne va pas nous laisser sans succès aussi dans notre vie. Joseph est passé par des moments difficiles, mais chacune des étapes par lesquelles était passé, c'était comme des escaliers, les souffrances étaient comme des escaliers qui vont le conduire, le propulser à un niveau élevé. Amen. Alors, que viennent faire les souffrances dans notre vie? Quelles sont les fonctions, les rôles que les souffrances peuvent jouer dans notre vie? Nous venons de voir que les souffrances ne sont pas toujours si mauvaises que nous pouvons les considérer de prime abord. Mais n'oublions pas que c'est par les souffrances atroces que Jésus nous a acquis le pardon et le salut. Hébreux au chapitre 2, le verset 10 nous dit ceci. Hébreux 2, 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Ce passage nous dit que Dieu a un projet. Dieu avait un projet. Il voulait que les hommes puissent atteindre la gloire. Il voulait que les hommes puissent un jour le rejoindre là dans le ciel. Mais pour réaliser ce projet-là, qu'est-ce qu'il a fallu? Que les souffrances puissent atteindre la vie de son bien-aimé Jésus-Christ. C'est par les souffrances de Jésus-Christ que nous sommes là. Oh, merci d'avoir chanté et dansé ce matin. Nous avons jubilé de joie quand nous parlons du nom de Jésus-Christ. Nous avons raison, mes amis. Nous avons raison de chanter pour Jésus. Parce que ce sont ces souffrances-là qui ont fait que nous puissions être remplis de joie aujourd'hui. Seigneur, merci pour ces souffrances. Donc les souffrances de Jésus-Christ nous ont apporté le pardon des péchés, la guérison de la maladie, la tranquillité, la quiétude dont nous avons besoin, les saluts, et nous entrerons un jour au ciel à cause des souffrances par lesquelles le Seigneur Jésus-Christ était passé. Il y a des proverbes qui existent chez nous ici. On a l'habitude de dire « Pas ya oyo, bisengo ya oyo ». N'est-ce pas? Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Les souffrances par lesquelles un père est passé ont fait l'objet du succès, de la victoire de son fils. Et pour nous, enfants de Dieu, il nous a dit aussi que nous passerons par des moments difficiles. Paul, accompagné de Barnabas et quelques frères, était en train de visiter plusieurs villes de l'Asie mineure. Ils ont été à Antioche, à Derbe, Ils ont été à Icône et même Paul avait été lapidé quelque part. Mais lorsqu'il va retrouver les frères de Derbe, il va leur dire ce que nous trouvons dans Actes chapitre 14, le verset 22. Dans Actes 14, verset 22, Paul et Barnabas qui avaient passé par de grandes souffrances, ils allaient là, ils fortifiaient l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimés, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, ça nous fait pleurer. Lorsque cela arrive, c'est vrai, ce n'est pas un sujet de joie. Mais un jour, nous allons nous rendre compte que c'est un chemin qui était obligé afin que nous puissions rencontrer la joie et le bonheur que le Seigneur a prévu. Même nos enfants, quand ils vont à l'école ou à l'université, ils passent par un moment difficile. Ils se retrouvent à faire parfois une nuit où ils ne dorment pas. Ils ont les syllabistes devant eux. Ce sont des souffrances aussi, n'est-ce pas? Mais au terme de ces souffrances-là, il va passer d'une classe à une autre. Il va passer du niveau secondaire au niveau supérieur après avoir affronté les épreuves de l'examen d'État. Prenez courage si vous êtes en train de rédiger votre mémoire. Parfois, vous ne savez même plus comment commencer. Dites-lui, Seigneur, je compte sur toi. Je compte sur la sagesse qui est auprès de toi. Guide-moi, ne baissez pas les bras. Il y a des gens qui ont arrêté des études seulement au niveau de la rédaction du mémoire. Je voudrais vous dire, prenez courage. Au-delà des souffrances que vous allez vivre en rédigeant ce mémoire-là, vous allez atteindre un niveau plus élevé. Même au niveau de l'Église, pour que nous puissions en arriver là où nous sommes, je vous assure, j'ai vu le pasteur Vernon ici, ce qu'il avait enduré. C'est lui qui a été le premier conducteur de louange ici. À la place où se trouve notre sœur, c'est lui qui était là. Il conduit la louange, il fait chanter ici, et après ça, il prend la place du pasteur Gérard. Il conduit les cultes et ensuite, il va prendre la prédication et il va encore donner les annonces à la fin. Ce n'était pas facile. Mais je peux dire que les souffrances par lesquelles cet homme de Dieu est passé, ça fait qu'aujourd'hui, lorsque l'on parle de la borne, en quelque lieu que ce soit, en quelque endroit que ce soit, il y a directement un caractère particulier que l'on attribue à l'église la borne. En dehors du pays, quelqu'un m'avait posé cette question. Finalement, la borne, c'est quoi? Et ils sont à plus de 3000 kilomètres. Ils m'ont posé cette question. J'ai dit, c'est une église. Ah, mais qu'est-ce qui fait que l'on parle de la borne ainsi? Vous verrez que toutes les personnes qui sont en train de planter des églises et qui se reconnaissent de ce mouvement, qui ont été ici, même quand ils vont donner un certain nom à leur église, ils vont mettre entre parenthèses la borne de tel endroit. Ce sont les souffrances que quelqu'un avait endurées qui ont entraîné cela. C'est pourquoi une bonne manière pour nous de pouvoir reconnaître ce que cet homme a fait, c'est que nous puissions marcher dans la voie qu'il nous a indiquée. Marchons dans la voie du Seigneur. Marchons sur la voie que le Seigneur a tracée pour nous. Il n'y a rien de plus merveilleux que cela. Chers enfants, vos parents, ils endurent. Parfois, les revenus sont tout petits, mais ils tiennent absolument à ce que vous puissiez étudier. Nous sommes là aujourd'hui, nous sommes en train de travailler. Si papa est encore vivant, si maman est encore vivante, c'est vrai que tout ce que nous gagnons aujourd'hui, ce n'est pas à eux que nous les ramenons. Mais faisons encore un effort aujourd'hui. Pensons à eux. Pourquoi pas leur envoyer un peu d'argent, si nous en avons. Faisons-leur du bien. On a parlé d'un papa qui avait un jour appelé son fils au téléphone. Il lui dit, j'en ai assez de vivre avec ta mère ici. Ça fait 55 ans que nous sommes ensemble. Fini ce calvaire. Nous devons divorcer. Et le garçon dit, mais qu'est-ce qui est arrivé, papa? Il dit, c'est fini, je dois me séparer avec ta mère. Alors il dit, mais papa, s'il te plaît, attends que je sois d'abord arrivé. Il appelle sa sœur pour lui dire, Yaya, écoute ce que papa est en train de dire. Il veut se séparer de maman. Qu'est-ce que nous allons faire? Ils disent, non. Levons-nous, allons-y. Et le vieux, là où il était, il a dit à sa femme, ils arrivent. Ils arrivent. Il avait tout simplement soif de revoir ses enfants. Il voulait les avoir de nouveau devant eux. Et imaginez la joie quand ils sont arrivés là-bas. Le frère et la sœur ont trouvé papa et maman ensemble, bras dessus, bras dessous. Donnez de la joie à papa, donnez de la joie à maman. Réjouissez-les, s'il vous plaît. Quelqu'un vous a aidé à atteindre le point où vous êtes. Donnez-lui de la joie. Ne lui faites pas de la peine. Ne commençons pas à traiter nos parents de sorciers comme on les dit dans certains milieux. Non, ils nous ont enfantés, ils ont veillé sur nous. Nous avons atteint cet âge que nous avons. Et ils nous ont soutenus. Vous savez combien de nuits blanches ils avaient connues? Lorsque nous étions malades, nos parents ont enduré, ils sont passés par des moments difficiles. Frère, vous venez de vous marier, quand l'enfant va venir, il n'y a pas que la joie. Hein? Parfois vous allez passer des nuits difficiles. Ah, quelqu'un est en train de hocher la tête pour dire, papa, tu as raison. Mais ces souffrances-là sont utiles pour que notre bébé, notre enfant, qu'il puisse être en bon état, pour que nous puissions voir cet enfant accéder à des niveaux supérieurs. Prenez votre poche. Dans la langue de chez moi, il y a même un langage qui dit, prenez votre poche, mettez-le à l'extérieur. Sortez même tout ce que vous avez avec vous pour que votre enfant puisse étudier. Bien-aimé, la Bible nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous récolterons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. C'est dans Galates au chapitre 6, le verset 9. Nous moissonnerons au temps convenable. Même si pendant que nous sommes en train de s'aimer, il y a des larmes en nous, prenez courage, mes bien-aimés. Comment réagir alors devant les souffrances? Quand nous passons par des moments difficiles, qu'est-ce que nous devons faire? Je ne fais que donner quelques conseils. Je les donne souvent et j'aime revenir là-dessus. Je voudrais encore, en ce début de l'année, le rappeler. Si vous passez par des moments durs, voici quelques conseils. Premièrement, remerciez Dieu pour les souffrances. Frère, qu'est-ce que tu nous dis? Que nous puissions dire merci à Dieu parce que nous souffrons, oui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, le verset 18, dit ceci. Rendez grâce en toutes choses, n'est-ce pas? Il n'est pas dit, rendez grâce pour les choses bonnes. Mais on dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. En Jésus-Christ. Même quand les choses sont dures. Je parle comme ça, mais il y a quelque chose qui m'est arrivé en 2009. C'était tellement douloureux que je suis allé chercher le pasteur Verneau pour lui faire part de cela. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Frère, tu en rencontreras encore comme cela. J'ai dit, ah! Je croyais qu'il allait me caresser, qu'il allait me prendre dans les bras. Il dit, vous en rencontrerez. Et j'en rencontre encore. Mais je voudrais vous dire que certaines de ces souffrances-là, je vois déjà les résultats que cela produit. Et je pense que si on demandait à quelqu'un de venir ici, donner les témoignages, il sera tout souriant. Pourtant, le jour où la souffrance était là, il n'était pas en train de rire. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. On vous a donné la liste, hein? Pour le mariage, pour prendre cette fille en mariage. N'est-ce pas? Rendez grâce au Seigneur. Dites-lui, Seigneur, donne-moi les moyens afin que je puisse satisfaire aux demandes de mon beau-père, de mon bel oncle, afin que je puisse prendre cette femme en mariage. Quand vous aurez payé la dot, vous allez avoir votre femme chez vous à la maison, vous allez dire, quand je pense à ce que j'ai enduré pour toi, Et ça sera la joie en ce moment-là. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Deuxièmement, vous pouvez interroger Dieu. Dites-lui, Seigneur, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu permets que je passe par des moments pareils? Quand j'ai passé par cette situation en 2009, il y a quelqu'un que j'ai rencontré, un pasteur qui était ici et qui se trouve aujourd'hui en train de travailler à l'Est. Il m'a dit, Papa Charles, il me pose deux questions. Premièrement, est-ce que le Seigneur ne sait pas que ce qu'on te paye là où tu travailles, c'est avec ça que tu soutiens les missions? J'ai dit oui. Il le sait. Deuxièmement, il dit, quand ce complot-là était en train de se tramer, est-ce que Dieu n'était pas au courant? J'ai dit, il sait toutes choses avant que cela n'arrive. Il dit, mais alors, demande au Seigneur pourquoi il a permis cela. Et tu seras tranquille. Bon, moi, le Seigneur a voulu en ce moment-là m'indiquer ce qu'il voulait pour moi. Et c'est ce qui a fait aussi que, entre autres, je me retrouve devant vous ce matin. Il voulait que ce petit confort dans lequel j'étais en ce moment-là, que ce confort puisse être perdu afin que je puisse faire face à la réalité que le Seigneur voulait pour moi. Bien sûr, Dieu pourra vous répondre, comme aussi il peut ne pas vous répondre. Si vous avez posé la question au Seigneur qui ne vous a pas répondu, soyez calme et dites-lui, Seigneur, je t'ai fait confiance. Vous en serez en tout cas apaisé. Troisièmement, demeurez attaché à Dieu pendant que vous souffrez. Dites-lui, Seigneur, ça me fait très mal, je pleure. Mais ajoutez, Seigneur, je te demeure fidèle. Je vais te demeurer fidèle même si je suis en larmes. Demandez-lui de tenir bon dans la souffrance. Bien-aimé, il nous est dit dans Hébreux au chapitre 4, le verset 14 à 16, il est dit ceci. Ainsi, Hébreux 4, à partir du verset 14, il est dit ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Pourquoi? Verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Mais la différence, c'est que lui, il n'a pas commis de péché. Et verset 16, alors, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Voilà la chose que nous devons faire lorsque nous passons par des moments difficiles. Seigneur, accorde-moi ton secours. Accorde-moi la grâce de tenir bon. Je ne voudrais pas abandonner. Je ne veux pas laisser en dépit des moments par lesquels je suis en train de passer. Cependant, bien-aimé, il faut faire la différence entre les souffrances dont je parle ici et celles qui nous arrivent par notre négligence ou notre manque de sagesse. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 17 nous dit ceci. 1 Pierre 3, 17. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Lorsque nous faisons du mal à quelqu'un, lorsque nous faisons du mal à notre nation, sachons que nous pouvons nous retrouver devant des difficultés. Mais ce n'est pas de cette souffrance-là que Dieu est en train de parler. Il veut plutôt que nous puissions souffrir pour la bonne cause, si cela doit être ainsi. Il y a un jeune homme qui m'avait dit qu'il était pourchassé par un papa, parce que sans avoir marié sa fille, cette fille-là attendait famille. Mais ça, c'est ce que l'on appelle à Kinshasa Makisosi, là. Vous êtes vous-même allé provoquer des problèmes. Alors acceptez ce qui vous arrive. Mais si vous êtes dans cette situation-là, je vais vous dire, repentez-vous, demandez que le Seigneur vous pardonne et ne revenez plus là-dessus. Bien-aimés, Dieu est celui qui nous soutient en tout temps. Pour conclure, je voudrais dire qu'au-delà des souffrances, il y a la gloire. Lorsque le Seigneur a permis que nous passions par des moments difficiles, il y a une gloire qui se tient quelque part. Nous ne la voyons pas encore, mais elle va venir. C'est pourquoi le passage que nous avons lu dans Romains au chapitre 8, verset 18, nous dit ceci. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Vous travaillez quelque part, mais à cause des combines, vous gagnez beaucoup d'argent. Vous rencontrez le Seigneur Jésus-Christ et on vous dit, arrêtez de voler. Oui, acceptez de passer par ce moment difficile-là. Et vous allez voir la gloire que le Seigneur va manifester pour vous. Ne dites pas maintenant cet avantage dans lequel j'étais. Vous avez vécu avec un homme qui n'est pas votre mari. Vous avez entendu la parole de Dieu. La parole de Dieu vous dit, laissez cet homme-là à sa femme. Vous vous dites, comment est-ce que je vais payer le loyer? Comment est-ce que je vais vivre? Abandonnez cela. Le Seigneur lui-même, il sait comment il va prendre soin de vous. Le commentaire Esprit et Vie que j'ai lu à ce propos dit ceci. Toutes les souffrances des temps présents, que ce soit la maladie, la douleur, le malheur, les déceptions, la pauvreté, les mauvais traitements, les chagrins, la persécution et les problèmes de tout genre doivent être considérés comme des choses insignifiantes lorsqu'elles sont comparées à la bénédiction, à l'expérience, au privilège et à la gloire qui seront accordées aux croyants dans le futur. Et le verset 28, toujours, de Romains chapitre 8 nous dit ceci. Nous savons du reste que toutes choses concourent, littéralement, toutes ces choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Vous comprenez pourquoi j'avais dit tout à l'heure, est-ce que vous aimez Dieu au point de rejeter le péché, au point d'abandonner même des avantages que le mal vous procure afin de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ? Dieu fait donc concourir toutes choses à notre bien. Son plan est qu'en dépit de la souffrance et de l'opposition que nous pouvons connaître, les circonstances permettent notre bien. C'est-à-dire, nous rendent de plus en plus conformes à l'image du Fils de Dieu. Ça, c'est le niveau le plus élevé auquel le Seigneur nous destine. Ressembler à son Fils Jésus-Christ. Mais pour y parvenir, nous allons passer aussi par des moments difficiles. Jésus lui-même, il est passé par là. Les apôtres sont passés par là. Nous aussi, nous pourrons faire face à cela. Et pour terminer, le verset 31 nous disait ceci. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Chers enfants de Dieu, la souffrance n'est qu'un moyen par lequel le Seigneur peut nous permettre de passer afin que nous puissions atteindre l'autre bord. Mais j'insiste encore sur ce point. Avez-vous donné votre cœur à Jésus-Christ pour dire que vous aimez Dieu selon son dessein? Avant que nous puissions prier, je voudrais qu'avec notre sœur Rose, nous puissions encore prendre une strophe de ces cantiques avec laquelle on a terminé tout à l'heure. Si la mer se déchaîne, prenons encore ces cantiques. Peut-être que vous êtes en train de pleurer. Peut-être que vous passez pendant ce moment-ci des temps difficiles. Mais le Seigneur nous rassure, il nous réconforte. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu vas mourir.
Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur. Tu sombrerais, il a dit.
Tu es là, tu es venu aujourd'hui parce que tu as été invité. Peut-être même que tu es déjà venu plusieurs fois. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que tu n'aimes pas Dieu. Tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ne laisse pas passer ce moment. Là où tu es, lève ta main et dis-lui, Seigneur, je mets un terme à tout ce qui n'est pas de toi. Prends la décision aujourd'hui de t'abandonner au Seigneur Jésus-Christ. Lève ta main, ou mieux même, tu peux te tenir debout là où tu es, que ce soit ici à travers la grande salle ou à travers les différents hangars. Lève-toi et dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, je vais te donner ma vie aujourd'hui. Je m'abandonne entre tes mains. Et nous allons prier pour ces bien-aimés. Seigneur notre Dieu, tu vois cette personne qui peut-être ne se trouve pas dans cette salle, qui n'est pas avec nous ici à la borne, mais qui à la maison est en train a suivi cette prédication. Il a suivi ce culte, il y a participé et il est en train de prendre sa décision. Tu dis dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Accorde-lui le pardon et donne-lui, Seigneur, d'ouvrir son cœur. Entre dans son cœur, Seigneur, prends place en lui et que désormais ils vivent par toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Frère, si tu as pris cette décision, ou ma soeur, vois un serviteur de Dieu afin qu'il puisse t'aider dans le reste de ton parcours. Je vais maintenant prier pour d'autres personnes. Si tu trouves que tu es en train de passer par des moments difficiles, tu n'arrives plus rien à comprendre, considère que ceux qui ont été avant nous, ils ont passé par là aussi. Mais le Seigneur les en a fait sortir. Alors là où tu es, ouvre ta bouche, parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, sors-moi de cette situation. Seigneur, sauve-moi et donne-moi de tenir bon, malgré le moment difficile par lequel je suis en train de passer. Prie le Seigneur là où tu es. Seigneur notre Dieu, peut-être que c'est un travail, peut-être que c'est une maladie, peut-être que c'est une injustice. Peut-être que c'est une conduite qui ne glorifie pas ton nom. Seigneur, cette personne prend la décision aujourd'hui de marcher avec toi. Alors que la nouvelle année vient de commencer, Seigneur, nous te prions que tu viennes à notre secours. Nous te prions, Seigneur, que tu viennes avec à notre aide, quel que soit le moment par lequel nous sommes en train de passer. Jésus, viens à notre secours. Sois notre secours en tout temps. Merci Seigneur, tu n'as pas dit que nous allons couler. Tu n'as pas dit que nous allons sombrer. Tu n'as pas dit que je vais mourir. Tu n'as pas dit que cette souffrance va m'emporter. Viens à mon secours Seigneur. Alléluia.